Le thème de cette prédication, c'est la
vocation.
Vocation. Donc je lis Nombre 27, 12 à 23. L'Éternel dit à Moïse, gravis cette montagne de la chaîne des Abarim et contemple le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le regarderas, puis tu iras rejoindre tes ancêtres décédés comme ton frère Aaron. Car vous avez désobéi à mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque la communauté me cherchait querelle. Vous n'avez pas honoré ma sainteté devant le peuple en faisant jaillir de l'eau. Il s'agit de l'épisode des eaux de Meriba, qui eut lieu à Kadesh, dans le désert de Tsin. Moïse lui répondit, « Que l'Éternel qui dispose du souffle de vie, de toute créature, désigne un homme pour chef de la communauté. » Quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leur mouvement militaire, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi Josué, fils de Noun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté, et tu l'investiras de ses fonctions devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Il se tiendra devant le prêtre Éléazar et celui-ci me consultera pour lui par l'Orim. C'est d'après ce qu'il dira que Josué et toute la communauté des Israélites opéreront leur mouvement militaire. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné et fit venir Josué et le plaça devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et l'établit dans sa charge, comme l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Et nous prions. Seigneur, merci pour ta présence et ton règne dans nos cœurs. Merci pour ton amour et ta grâce abondante dans nos vies. Merci pour ta parole de vie que tu sèmes dans nos églises. Tu as donné ta parole inspirée par ton esprit, afin qu'elle serve à notre instruction et à notre croissance spirituelle. Alors que nous allons entendre ta parole pour nous aujourd'hui, accorde-nous la grâce de la recevoir et d'y obéir avec joie. Nous reconnaissons ton autorité, nous nous plaçons ainsi sous ta grâce abondante. Que ta parole remplisse nos cœurs, nos vies, nos maisons, et déborde en témoignages vivants dans nos quartiers, nos villes et villages. Nous te prions sincèrement avec l'assurance que tu as déjà tout préparé pour répondre à notre prière. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, comme je vous ai dit, cette prédication a été écrite, alors, il me semble que ce n'est pas par un pasteur, mais par un ensemble de pasteurs, André, tu confirmes ou je sais pas. C'est pas signé à la fin, donc je pense que c'est par la commission édification, je pense, ou plusieurs pasteurs. Je me suis permis de rajouter quelque chose dedans, je ne ferai pas tel quel, c'est un peu dur de donner une prédication telle quelle. Mais... Voilà, l'ensemble vient de notre union d'église. Alors, pour commencer, un appel à la vocation. On peut dire que ce texte commence un peu mal. En effet, au début de notre texte, Dieu fait référence à la raison pour laquelle Aaron et Moïse n'entreront pas dans le pays. Dans leur appel, leur vocation, il y a eu une faille, une désobéissance. Cette faille a eu lieu à Meriba Kad, dans le désert de Sin, où l'eau a jailli du rocher pour le peuple qui se plaignait. La raison mentionnée ici est la suivante, c'est parce que vous n'avez pas montré de respect pour ma sainteté. Dieu avait dit de commander au rocher de donner de l'eau, mais Moïse a dit au peuple, allons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous ? Nous, c'est-à-dire Moïse et Aaron. Moïse s'est attribué le mérite d'avoir fourni de l'eau. Il s'est attribué cette bénédiction à lui-même et à Aaron. Il n'a pas rendu à Dieu l'honneur qui lui revient. Il a rendu le signe encore plus dramatique en frappant deux fois sur le rocher avec son bâton. Moïse s'est présenté devant le peuple avec arrogance et a donné à sa propre position vis-à-vis du peuple une importance qu'elle ne méritait pas. Ainsi, Moïse a désobéi à Dieu, il n'a pas honoré la sainteté de Dieu et son autorité. C'est grave. Il y a des conséquences à ce geste. Comment ne pas obéir et faire confiance en l'Éternel ? L'Éternel est le Dieu de l'Alliance. Il s'est engagé envers son peuple et il reste fidèle à ses promesses. Depuis la sortie d'Égypte, Dieu a montré qu'il marche devant Israël pour le protéger et prendre soin de nous. Oui, nous sommes faillibles. Mais malgré l'infidélité de Moïse et le murmure du peuple, Dieu ne renonce pas à son alliance avec Israël. Josué, le fils de Noun, est choisi par Dieu pour recevoir l'autorité nécessaire pour conduire le peuple d'Israël. Moïse est appelé à passer le relais. Dieu accorde à Moïse de jeter un regard sur la terre promise, contrairement à Aaron auparavant. Dieu est bon, Dieu est rempli d'amour. Moïse a fauté, mais Dieu sait que Moïse voulait voir cette terre promise avant de mourir, alors Dieu lui permet. Quant à Aaron, vous le savez, il a commis aussi d'autres erreurs, notamment la fabrication du veau d'or. Et lui ne pourra pas voir la terre promise. C'est vrai que c'est un peu difficile, je trouve, parce que est-ce vraiment que de la faute de Moïse et de Aaron ? N'est-ce pas ce peuple aussi qui était toujours à demander plus, toujours à pousser Moïse et Aaron à la faute ? Et pourtant, Moïse et Aaron sont à la tête et ils sont responsables. Tout comme le conseil dans cette église est responsable de l'Église. Si l'Église part en n'importe quoi, c'est sur le conseil que ça retombe. Mais Dieu est amour. Et il pardonne. Moïse, nous le savons, est pardonné, il n'ira pas en enfer. Parce que Dieu est amour. Et la Bible dit que tous sont pécheurs. Mais continuons. Lors de l'annonce de sa mort, c'est Moïse lui-même qui demande à Dieu de nommer un chef pour le peuple. Verset 17a, « Qui peut diriger et commander les troupes ?» Une interprétation de l'expression « Qui les fait sortir, les fait entrer ?» Cela fait référence à l'ensemble des actions d'un chef. La référence aux troupes met l'accent sur les opérations militaires, contrairement au verset 17c. Alors, souvent les théologiens, ils mettent 17a, 17b, 17c, parce qu'ils divisent les versets en plusieurs morceaux. Voilà. Mais sinon, vous lisez le verset en entier, c'est pas grave, vous aurez le morceau dedans. Donc, verset 17c, où le chef est considéré comme un berger. Le choix de Josué comme successeur n'est pas surprenant. Il assiste Moïse depuis longtemps déjà. Josué était aussi, avec Caleb, le seul des éclaireurs à avoir rendu un rapport positif sur la terre promise. Vous vous souvenez de ce passage où ils reviennent de la terre promise, c'est tout magnifique, mais il y en a qui ont la trop, ils disent « Oula, il y a des géants, c'est impossible !» Puis Josué dit « Non, non, on va y aller. » Et puis finalement, il ne va pas être écouté. Et le Seigneur a vu ça. Le Seigneur l'a vu là. Il en est récompensé par la suite. Au verset 18, Josué est décrit comme un homme plein de courage de l'Esprit Saint. La nomination et la confirmation de Josué comme nouveau chef ne sont pas une affaire personnelle entre Moïse et Josué. L'autorité doit être transférée en présence du prêtre Éléazar et de toute la communauté devant Dieu qui est à l'initiative de la terre. Ils auraient pu juste dire, ben voilà, Moïse et Josué, ils sont un truc en catimini, tous les deux, et puis voilà, c'est fini, mais non. Il faut que tout le monde soit présent. En tant que chef, Josué devra s'adresser au prêtre Éléazar pour prendre des décisions afin que celui-ci consulte le Seigneur. Verset 21. Contrairement à Moïse qui parle directement à Dieu. Verset 22. Moïse a reçu une instruction d'imposer la main au singulier, à Josué. Mais dans la pratique, il lui impose les mains au pluriel. Dans la tradition juive, cela s'explique par le fait que Moïse transmet une sagesse abondante à Josué. Ce que je trouve aussi beau dans ce passage, c'est que si Moïse ne peut pas vivre dans cette terre promise, c'est un peu à cause de ce peuple qui l'a un peu poussé à fauter de partout, et bien il a toujours cet amour pour ce peuple. Et il veut choisir un chef avant de mourir. Il s'intéresse à ce peuple. Il aime ce peuple. Tout comme Dieu nous aime malgré les erreurs que nous faisons. Nous sommes Israël, nous sommes rebelles. Et Dieu continue à nous aider. Je trouve ça magnifique. Et si Moïse a pu continuer, je pense parce que c'est l'amour de Dieu qui habitait dans le cœur de Moïse et qui transformait Moïse. Revenons à notre texte. Le mot « vocation » peut évoquer les grands personnages de la Bible auxquels une voix du ciel s'adresse. Par exemple, la vocation de Moïse, le phénomène particulier du buisson ardent qui ne se consumait pas. La voix audible, qui n'a jamais rêvé d'entendre la voix de Dieu. Moïse l'a entendu. Moïse, qui doit retirer ses sandales en raison de la sainteté du sol sur lequel il se trouve. Josué, lui, est appelé d'une autre manière à sa nouvelle tâche de direction pour le peuple. C'est Moïse qui communique directement avec Dieu. Pour Josué, il n'y a pas de phénomène particulier ni de voix directe venant du ciel. Il a grandi dans son rôle de serviteur aux côtés de Moïse. Il reçoit sa vocation indirectement par les paroles et par l'imposition des mains de Moïse. Dieu utilise Moïse pour appeler Josué. C'est curieux. Et pourtant, en réfléchissant, on est vraiment ce Dieu de l'Alliance. Les enfants ont grandi dans l'Alliance. Ils ont été éduqués par les anciens. Josué a pu être éduqué par Moïse à prendre cette fonction. Donc il a grandi dans la présence de Dieu. Moïse, lui, rappelez-vous, il a grandi où ?
Pharaon.
Pharaon. Avec les idoles, avec les faux dieux. Il n'a pas vécu dans cette alliance, dans ce peuple de Dieu. Il a vécu complètement à l'écart. Et il avait besoin d'entendre cette voix de Dieu venant sur lui pour comprendre et savoir ce qu'il devait faire. Ça me fait penser aux musulmans qui voient Jésus, l'homme en blanc. Ils ne sont pas dans l'alliance. Ils sont totalement en dehors de l'alliance. Et si Dieu n'intervient pas directement dans leur vie, c'est difficile pour eux de connaître le Christ. Par contre, nous qui vivons dans l'Alliance, nous qui, des petits, avons entendu la parole de Dieu, c'est plus simple de prendre des engagements. Alors nous rêvons de voir Jésus. Mais, très chers frères et sœurs, je pense que c'est mieux de vivre dans l'Alliance toute sa vie et de ne pas voir Jésus que d'avoir vécu en dehors de l'Alliance et d'avoir vécu Jésus au fin de sa vie. Parce que nous avons pu goûter aux bénédictions de Dieu jour après jour, depuis notre naissance. Voilà, des choses complètement différentes. Alors nous rêvons peut-être d'une vocation où Dieu descend dans les nuées, etc. Mais c'est tout autre chose. Heureux celui qui a cru sans voir. Le texte que nous avons lu en début de prédication me pousse à écouter la voix du Seigneur plutôt que mes impulsions. Quand les situations deviennent compliquées ou incertaines, suis-je tenté d'agir avec précipitation et arrogance? Dieu m'appelle à lui faire confiance en tant que Dieu de l'Alliance. Et par sa parole et par son esprit, il m'apprend à suivre Jésus et à croire qu'il conduit l'histoire de son peuple et qu'il m'implique selon son projet de Dieu berger. Aujourd'hui, Dieu m'appelle, Dieu vous appelle à travers cette parole. Il nous appelle à connaître son histoire, l'histoire de la rédemption. Du haut de la croix, Christ a appelé Jean et Marie à former une nouvelle famille. Dans la faiblesse extrême, Jésus règne, forme son Église et nous appelle à y participer. Ainsi, malgré nos faiblesses, Christ, celui qui est pleinement loin de l'Esprit, fait de nous un instrument de bénédiction pour les autres. Quelle est notre position en tant qu'appelés au sein de l'Église? Répondre à une vocation au sein de l'Église ne signifie pas que vous devez être un super croyant. Tout savoir. Toujours avoir une réponse à tout. Ça c'est dur. Souvent dans nos vies, on est celui qui sait tout. Ne pas avoir réponse à tout. À nous considérer comme très importants. Alors, est-ce que pour avoir une vocation dans l'Église, je dois avoir réponse à tout, tout savoir, et être quelqu'un de très important, être quelqu'un de considéré, qui a une stature dans l'Église? Moïse glisse et tombe lorsqu'il s'attribue trop d'honneur. La vocation, qu'il s'agisse de diacre, d'ancien ou de pasteur, ne se fait pas si tout va bien, pour le titre ou l'honneur. Les personnes qui font beaucoup pour l'Église et qui ne recherchent pas de place d'honneur sont peut-être justement celles dont on a le plus besoin dans la fonction. Quand on m'a parachuté à Thiers en me disant « Ben, voilà, tu vas devenir évangéliste », eh bien, je ne me sentais pas à ma place. Je me disais « Mais il y a bien meilleur que moi. » Et j'ai prié pour que le Seigneur me conduise. Par contre, c'est vrai que si j'aurais été devenu pasteur, orgueilleux comme j'étais, je pensais à devenir pasteur parce que dans la famille, on en a de génération en génération. C'est dans l'humilité que la vocation doit arriver. S'il n'y a pas d'humilité, nous ratons la vocation. La position du ministère exige justement des personnes qui ont reçu un appel du Seigneur confirmé par les responsables de l'Église. Ainsi, nous pouvons avoir une assurance, celle que nous donne le Saint-Esprit, pour mettre en œuvre notre vocation et notre mission. Si les anciens viennent vous voir et vous disent « Je pense que tu peux avoir cette vocation dans l'Église à enseigner auprès des enfants, à apporter la parole, à préparer la scène, à faire encore plein d'autres choses », ne vous dénigrez pas. Vous ne dites pas, je crois que c'est Moïse aussi qui disait, Abraham, je suis trop vieux. Ça, je l'entends souvent dans l'Église, je suis trop vieux, je ne peux plus rendre service. Dommage pour vous, le Seigneur utilise même les personnes âgées pour son service. Donc vous ne pouvez même pas avoir cette excuse de l'âge. Ce qu'il nous faut par contre, c'est de l'humilité. Si je pense ne pas être bon pour cette tâche, et que les anciens pensent que je le suis, c'est bon signe. Il n'y a rien de pire qu'une personne arrogante qui prend une vocation dans une église, il écrase les autres et la vocation se tarit. Par contre, une personne qui prend une vocation alors qu'il est faible encouragera les autres à prendre aussi une vocation. C'était pas prévu, mais ma fille a joué là de la flûte, elle est un peu tremblante et tout. Mais je pense qu'elle a aussi sa place. Parce que si elle l'a fait, elle l'a fait de son cœur et c'est le plus important. Les personnes qui font beaucoup pour l'Église et qui ne recherchent pas de place d'honneur sont peut-être justement celles dont on a le plus besoin dans la fonction. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas qui fait le ménage, peut-être ici ou en haut. C'est peut-être ça se dit maintenant, mais... Et pourtant, ces personnes sont tellement importantes. Et c'est dans l'humilité qu'elles font cette vocation. La position du ministère exige justement des personnes qui ont... Ah pardon, je relis. Si vous ne vous sentez pas assez important pour occuper une fonction, c'est peut-être plutôt une recommandation qu'une raison de ne pas le faire. Même les grands noms de la Bible qui sont appelés ne sont souvent pas, d'un point de vue humain, les personnes les plus évidentes. Souvenons-nous, il y en a beaucoup. David. Même Saül.
Gédéon.
Daniel. Cain et Abel, il y a eu Abel, je pense aussi.
Joseph.
Et tant d'autres. Dieu ne choisit pas les orgueilleux. Dieu choisit les humbles. La seule recommandation qui ressort de ce texte pour Josué, c'est... C'est un homme en qui réside l'Esprit. Pardon, j'ai oublié même Moïse. Hein. C'est un petit bégayé, le pauvre. Il n'avait pas envie d'y aller. Hein. Et Josué, voilà, la recommandation, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Quand vous priez et quand vous écoutez la Bible, entendez-vous la voix du bon berger. Prenez le temps de l'écoute. Si vous appartenez au Seigneur de l'Alliance, vous appartenez au corps du Christ qui est un organisme vivant par son esprit. Vous avez donc une vocation en tant que membre du corps. Vous recevez une vocation et la promesse de l'Esprit Saint. Une vocation attend votre réponse. Soyez donc remplis de l'Esprit et servez le Seigneur là où il vous appelle. Par sa parole et par la foi, obéissez à la voix de votre berger. Et faites-le uniquement pour Dieu. Certaines personnes cherchent la meilleure église pour servir. Donc vous savez quoi, Moïse, il n'a pas eu le meilleur peuple pour servir. Même un peuple qui s'est tourné vers les idoles, etc., etc. Ne cherchez pas l'église parfaite pour servir. Engagez-vous uniquement pour le Christ. Et pour que sa lumière resplendisse sur cette ville de Thiers. Et des Sarrépins. Et de Saint-Rémy, de tous les villages de Lezoux, etc. Quelle est votre place au sein de votre communauté? Josué a reçu une vocation de chef. Pourquoi cette position particulière de ministère à côté de la multitude des tâches accomplies par les responsables au sein de la communauté? Josué doit prendre place devant le prêtre et devant toute la communauté. Cela a un rapport positif avec l'autorité. Le fait de recevoir un mandat, accepter un ministère devant la communauté, rend celle-ci co-responsable. Josué est devant le peuple parce que le peuple doit aussi le soutenir. C'est un peu comme le baptême. Normalement, le baptême, on ne va pas le prendre en cachette chez soi. On le fait devant la communauté, parce que la communauté aussi se rend co-responsable d'être là pour ce nouveau baptisé, d'être là pour ce frère le jour où il chutera, pour l'encourager, le relever, l'aimer. Ben c'est pareil. Quand on reçoit une vocation, ce n'est pas en catimini, c'est devant l'assemblée. L'imposition des mains devant la communauté de Josué peut également être associée à la liturgie lors de l'acceptation de la fonction. Comment cela est-il vécu dans votre communauté locale? Existe-t-il des coutumes locales spécifiques et quelle est leur origine? Se poser aussi les questions, est-ce que je fais ça juste par tradition et je ne sais même pas pourquoi je le fais finalement? Et de savoir notre liturgie, pourquoi on le fait, et le faire d'un cœur sincère. Le passage de relais sont très importants, afin que le peuple du Seigneur ne devienne pas comme un troupeau sans berger. Bien sûr, c'est Jésus lui-même qui est le bon berger. Et nous pouvons prier avec foi, Seigneur, c'est ton Église. Et ça, c'est super important. Moi, quand les choses ne vont pas toujours comme je veux, je dis, Seigneur, c'est pas mon Église, c'est ton Église. C'est pas à moi de la diriger, c'est toi à la diriger. Et si j'ai l'impression que ça ne va pas dans le bon chemin, c'est peut-être que j'ai, moi, les yeux aveuglés. Parce que c'est ton Église et c'est toi qui la diriges. Qui sommes-nous pour diriger cette Église? Nous ne sommes rien. Dieu est tout-puissant. Dans sa souveraineté, il guide cette Église de tiers là où il a envie que cette Église soit. Le Seigneur nous engage tous. Est-ce que le Seigneur vous appelle à vous engager à long terme dans une fonction, voire consacrer des études à ce domaine et en faire votre métier? Prenez le temps de l'écoute, seul, personnellement, devant Dieu et avec votre communauté, toujours devant Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en voyage avec beaucoup de personnes qui aiment aussi Jésus. Nous sommes en route, même à travers les épreuves, vers la gloire, le jour où Jésus reviendra. Que notre espérance soit une lumière pour tous ceux qui cherchent la vérité. Amen.